Histoire, actualité comme tous les vendredis dans la Fabrique de l'Histoire, actualité de la recherche, des projets d'histoire et des journées d'études. Dans un instant, Catherine Decopé, dans sa chronique mensuelle La Fabrique de l'Autre, nous évoquera la naissance et le développement du terme d'étudiant. Ensuite, nous aurons un entretien avec Vincent Lemire sur le projet d'archives. Nous avons fait toute la semaine sur les archives dans La Fabrique de l'Histoire, mais un projet d'archives un peu particulier puisqu'il s'agit de récupérer partout dans le monde les archives de la ville de Jérusalem pour parler de son histoire au 19e et au 20e siècle. Ensuite, Houda Ben Hamouda sera avec nous, elle est historienne. Elle nous parlera des journées d'études des sciences sociale en état d'urgence qui commence aujourd'hui à l'école des hautes études en sciences sociales. Et puis enfin, la séquence C'était à la une avec le site Retro News de la Bibliothèque nationale de France nous présentera un texte d'Albert Londres sur la Guyane. Mais je vous l'ai promis, nous allons commencer cette émission avec un hommage à l'historien Gilbert Meynier. Gilbert Meynier, nous avons avec nous Benjamin Stora. Bonjour Benjamin Stora.
Bonjour.
Alors peut-être les auditeurs de France Culture et de la Fabrique de l'Histoire ne connaissent-ils pas Gilbert Meynier, qui était une personnalité un peu à part de l'histoire et néanmoins qui a profondément, disons, révolutionné la vision que nous pouvions avoir de l'histoire de l'Algérie, de l'histoire de l'Algérie coloniale. Depuis maintenant quelques années, il était né en 1942. On a appris sa disparition et j'ai appris sa disparition par les réseaux sociaux et par un tweet que vous avez envoyé à ce propos. Benjamin Stora, c'était à la fois un historien qui était proche de vous sur l'Algérie, mais aussi un ami.
Oui, tout à fait. Gilbert Meynier est un immense historien de l'histoire de l'Algérie contemporaine. Il s'était fait connaître notamment par sa grande thèse, L'Algérie révélée, qui est un panorama absolument saisissant de l'Algérie pendant la Première Guerre mondiale, qui avait été préfacé par Pierre Vidal-Naquet, donc un historien engagé que j'avais connu jeune dans les années 70 lorsque je travaillais sur des alliages. Il s'était intéressé à moi dans la mesure où il était lui-même, disons, d'inspiration libertaire, donc opposé, disons, au système politique algérien de l'époque. Et c'est ainsi que nous nous sommes rencontrés à la fin des années 70, au début des années 80, notamment avec Charles-Robert Ageron. Et il a écrit d'ailleurs un très beau texte, hein, d'hommage à Charles-Robert Ageron lorsqu'il est décédé. Et puis ensuite, il s'est fait connaître encore davantage par un immense ouvrage qui s'appelle « Histoire du FLN », qui est paru aux éditions Fayard en 2002, qui est un travail considérable qui lui a demandé plusieurs années d'études dans les archives énormes de l'armée française qu'il a pu regarder, mais aussi des témoignages d'acteurs algériens engagés dans le nationalisme algérien. Ce livre-là, cet autre grand livre de Gilbert Meynier avait été préfacé par Mohamed Harbi, qui était aussi un ami comme moi de Gilbert Meynier.
Oui, ils avaient d'ailleurs travaillé aussi en collaboration pour le FLN Documents et Histoire, qui a été aussi un grand livre en 2004, qui a permis de mettre à disposition d'un grand public, d'un large public, c'était aux éditions Fayard, des documents qui permettaient de faire cette histoire du FLN, ou plus ou moins de la relire en l'occurrence, Benjamin Stora.
Oui, en fait, il avait ensuite publié une partie des archives sur lesquelles il s'était appuyé pour faire cet ouvrage Histoire du FLN, parce que pour lui, il était indispensable que l'histoire soit accessible au plus grand nombre. Gilbert était un homme qui n'appartenait pas véritablement au sérail universitaire classique. Il était un petit peu en marge de tout cela. Il menait une vie de chercheur solitaire et d'homme libre, très libre, et surtout, c'était un homme très engagé, très citoyen, comme son maître. Pierre Vidal-Naquet, notamment aux côtés des migrants. C'était un militant très actif de la CIMADE. Il était très actif, et on en avait beaucoup discuté, puisque, comme vous le savez, je préside le musée de l'immigration. Était très engagé, très très engagé ces dernières années sur la question de la défense des migrants. C'était un de ses combats avec sa femme Pierrette.
Et il avait co-organisé, c'était en 2008, à Lyon, à l'École Normale Supérieure, des journées d'études fort intéressantes qui, malheureusement, n'ont pas véritablement abouti à ce qu'ils escomptaient, avec Frédéric Abécassis, pour une histoire franco-algérienne, en finir avec les pressions officielles et les lobbies de mémoire. On voit évidemment combien il y avait une sorte de préscience dans le travail de Gilbert Meynier à vouloir absolument rapprocher les points de vue, faire en sorte que, disons, sous le mythe, on puisse faire de l'histoire, en l'occurrence, Benjamin Stora.
Oui, il voulait absolument essayer de faire des passerelles, dresser des ponts sur cette histoire commune, cette histoire partagée, difficile, parce que nous sommes encore aujourd'hui dans une sorte, entre guillemets, d'histoire parallèle entre l'histoire française et l'histoire algérienne, on le sait, bien sûr. Mais le grand mérite de Gilbert Meynier aussi, il faut le souligner, c'est que c'était un arabisant. Et il y a bien peu d'arabisants, malheureusement, qui travaillent sur l'histoire de l'Algérie et du Maghreb, et Gilbert Meynier était un de ceux-là. C'était un grand arabisant qui pouvait directement lire les textes concernant l'histoire intérieure de l'Algérie et du Maghreb directement en langue arabe. Donc vous voyez que c'était un homme agrégé d'histoire, bien sûr, bon, et qui avait aussi beaucoup d'amour pour ce pays, l'Algérie. Il avait enseigné 3 ans à Constantine, et il m'avait envoyé un des derniers textes qu'il m'avait envoyé l'année dernière, très beau texte disant son amour pour cette ville à propos de mon ouvrage « Les clés retrouvées ». Et ça m'avait beaucoup touché.
Merci beaucoup, Benjamin Stora, d'avoir pris un peu de votre temps donc pour pouvoir évoquer la figure de Gilbert Meynier, donc historien de la France, mais aussi de l'Algérie, des rapports entre la France et l'Algérie en particulier, et qui est décédé, on l'a appris, il y a 2 jours. Donc, merci beaucoup.
Libellis, conservateur, homme politique, insoumise, arc, geek, souffri, paysan, geek, red cause, arc, pétroleuse, souffri. La fabrique de l'autre, Catherine de Coppet.
C'est l'heure de vous retrouver, Catherine de Coppet, bonjour. Pour votre chronique « La fabrique de l'autre », cette chronique, je le rappelle, vise à s'appuyer sur un mot qui désigne une catégorie de personnes pour plonger dans un pan d'histoire. Et ce mois-ci, alors que le projet de loi « Orientation et réussite des étudiants » et son examen à l'Assemblée nationale depuis mardi font la une de l'actualité, vous avez eu envie de vous attarder sur le mot « étudiant ».
Alors le mot est dérivé du latin « studere » qui veut dire « apprendre » ou « s'appliquer ». Et le terme apparaît en ancien français au XIIIe siècle, d'abord comme participe présent, avant de devenir substantif. Il renvoie à ceux qui vont à l'école, quelle qu'elle soit, et ce n'est qu'au XVIe siècle que le mot « étudiant » renverra précisément aux élèves de l'enseignement supérieur, donc des universités. Entre la création des universités au XIe siècle en Europe et la fin du XVIIe siècle, le mot « étudiant » est en concurrence avec le terme « écolier » qui signifie à peu près la même chose. Et il faudra attendre la fin du XIXe siècle pour que les universités elles-mêmes reprennent dans leur communication le terme « étudiant » à leur compte.
Alors vous s'étiez insisté, Catherine, sur la figure fondatrice de l'étudiant justement dans ce Moyen-Âge.
Cet étudiant du Moyen-Âge a 15 ans quand il intègre l'université. Pour y entrer, il faut qu'il ait étudié d'abord la grammaire latine, c'est le sésame indispensable pour accéder à l'institution. L'étudiant restera à l'université, si tout va bien, pas moins de 20 années, le temps d'évoluer vers la fonction de maître, c'est-à-dire de professeur. Pourquoi aussi longtemps ? Parce que l'absence de support d'écriture et de lecture facile à transporter, ainsi que l'absence de bibliothèque, oblige les étudiants à mémoriser tout ce qu'ils vont apprendre. Ça vous donne une idée du défi qu'étudier représente à l'époque. Ces 20 années sont jalonnées par des examens qui valident le passage de différents grades. L'étudiant devient bachelier, puis licencié, c'est-à-dire autorisé à enseigner, avant de finir docteur. Il apprend d'abord les arts dits libéraux, rhétorique, mathématiques, musique, etc., avant d'intégrer l'une des 3 facultés, médecine, droit, c'est le droit de l'Église, ou théologie, la plus renommée. Les universités médiévales, les plus influentes se situant en Italie et en France, attiraient des étudiants venus de toute l'Europe et au sein d'un même pays de toute région. Jacques Verger a très bien montré d'ailleurs comment la mobilité étudiante en Europe a existé très tôt, même si elle était le fait de groupes minoritaires. On appelait ça en latin la peregrinatio, l'ancêtre de notre Erasmus. Quant aux origines sociales des étudiants, elles concernaient surtout la classe moyenne et non la grande noblesse.
Alors on le voit, l'étudiant médiéval était bien loin de celui que nous connaissons aujourd'hui, mais quand on regarde de près les débats qui agitent l'université médiévale, on comprend qu'ils ont imprégné fortement l'institution et son image jusqu'à aujourd'hui. On a entendu des termes que nous connaissons encore aujourd'hui, bachelier, licencié, docteur, par exemple.
Voilà. Alors la royauté, les municipalités, les autorités religieuses vont de plus en plus attendre de l'université qu'elle forme des lettrés capables de servir l'administration étatique ou ecclésiastique. Ça vous rappelle peut-être quelque chose ? D'où une certaine mainmise sur les contenus et une restriction parfois de la liberté d'université. La mission de l'université prend une dimension utilitariste entre le XIIIe et le XVe siècle. C'est vrai surtout du côté des facultés de droit et de médecine, celle des arts libéraux devenant le lieu d'une culture générale désintéressée. On le voit, la visée intellectuelle pure de l'enseignement n'a donc pas existé en tant que telle au Moyen-Âge, et ce débat quasi originel marque encore notre époque.
Alors une autre caractéristique de cette université du Moyen-Âge, Catherine, c'est qu'elle est exclusivement masculine, l'étudiante n'existe donc pas.
S'il y a bien sûr des femmes cultivées au Moyen-Âge, elles n'ont pas droit de citer à l'université, en effet, où les étudiants et maîtres sont tous des hommes et qui plus est souvent des célibataires. Donc non, l'étudiante n'existe pas à l'université, ni même dans la langue française. Il faut attendre la fin du XVIIIe siècle pour voir le terme apparaître avec un sens surprenant. L'étudiante désigne alors la compagne de l'étudiant, un peu comme la bouchère, celle du boucher. L'étudiante se réduit donc à la grisette du quartier latin. Ce qui me permet de faire un bond dans le temps pour arriver directement sous la Troisième République, puisque c'est à cette époque que naît la figure de l'étudiante, la vraie. En 1861, Julie-Victoire Daubier est la première femme à obtenir...
Retenons son nom, Daubier.
Voilà, la première femme à obtenir le bac, mais elle n'a pas le droit d'assister aux cours de l'université. Cette interdiction sera progressivement levée dans les décennies suivantes, établissement après établissement. Côté vocabulaire, il faut relever aussi une étrangeté. Ces premières femmes qui intègrent l'université sont appelées, tenez-vous bien, étudiants-filles. C'est dire si le phénomène a de quoi choquer dans une société où féminité et cerveau sont si souvent opposés. De fait, l'arrivée des femmes sur les bancs de la fac sera souvent qualifiée par les professeurs, plus que par les étudiants d'ailleurs, d'invasion ou de révolution. Rappelons que cette intégration des femmes se fera très progressivement, étant donné le retard dans l'instruction des filles. En 1900, les femmes ne représentent que 3% des effectifs de l'université et en 1935, presque un tiers. Quant au mot étudiante, il ne sera utilisé qu'une fois celui d'étudiant entré dans le vocabulaire institutionnel, ce qui arrive en 1882 pour la Sorbonne à Paris.
Merci beaucoup Catherine de Copé. On peut réécouter votre chronique sur la page qui est consacrée sur la page de la Fabrique de l'Histoire à votre chronique La Fabrique de l'Autre. Et puis on se retrouve le mois prochain. Merci.
Merci.
Vincent Lemire, bonjour.
Bonjour.
Nous saisissons une double actualité, pourrait-on dire, le fait que l'actualité de la Fabrique de l'Histoire était centrée sur les questions des archives pendant toute la semaine, mais aussi une actualité internationale avec la décision prise par Donald Trump de déplacer la capitale de l'État d'Israël à Jérusalem dans quelques années. Vous êtes le directeur d'un projet qui s'appelle Open Jérusalem. Vous êtes venu en parler il y a déjà quelques temps dans la Fabrique de l'Histoire, mais nous trouvions intéressant de vous faire revenir pour d'abord faire un point sur ce projet et nous expliquer en quoi la recherche, comme vous l'avez faite, des archives de la ville de Jérusalem réparties à travers le monde, plutôt dispersées à travers le monde, est une question importante pour l'histoire de cette ville et des pays qui l'entourent. Alors Vincent Lemire, qu'est-ce que ce projet Open Jérusalem ? C'est un projet européen d'abord.
Oui, ça c'est très très important. C'est un projet européen, donc c'est un financement européen. Donc on pourrait dire que c'est un projet transnational. Et c'est super important quand on arrive à Jérusalem d'arriver avec, j'allais dire, un drapeau européen sur la tête plutôt qu'un drapeau français ou anglais ou, j'ose même pas, évidemment, américain ou russe. Donc c'est un projet dont le financement est transnational, dont l'état d'esprit est transnational. Hein, c'est les fameux projets ERC, ces gros financements européens, mais qui encouragent sur le fond, scientifiquement, qui encouragent vraiment la recherche qu'on appelle aujourd'hui l'histoire transnationale. Et évidemment, un projet comme Open Jérusalem ne peut pas se faire sans une équipe. On est à peu près une soixantaine de chercheurs impliqués d'une quinzaine de pays, assez peu de Français finalement, mais des chercheurs voilà, qui lisent plein de langues, plein d'archives, qui ont des compétences en paléographie multiples. Donc c'est un projet transnational sur le plan très très concret et sur le plan de son financement aussi.
Alors vous êtes vous-même historien de Jérusalem, vous avez fait une thèse sur l'histoire hydrologique de Jérusalem, puis ensuite vous avez coordonné aussi un livre à quatre mains ou à huit mains avec d'autres historiens autour de l'histoire de cette ville. Cette question de la recherche de ces archives est-elle si particulière ? Tout compte fait, on pourrait se dire, puisque d'autres capitales ont été partagées à divers moments, que la ville de Jérusalem n'est pas si étrange que cela dans le fait qu'elle a ces archives qui sont réparties, dispersées à travers le monde, Vincent Lemire.
Mais de fait, vous avez bien fait de rappeler un peu mon parcours, parce que c'est des ruses que j'ai utilisées jusque-là, avant d'avoir ce financement, pour pouvoir faire sérieusement l'histoire de Jérusalem. D'abord, une ruse thématique, hein, vous avez parlé de cette hydrohistoire, donc un espèce de carottage thématique dans l'histoire de Jérusalem. En prenant ce thème de l'eau, je me suis dit, je vais pouvoir maîtriser une partie de la documentation et raconter une histoire de Jérusalem par l'eau. Puis après, un carottage chronologique, c'était Jérusalem 1900. Voilà, faire un espèce de flash chronologique sur un moment très particulier de l'histoire de la ville. Et puis après, se mettre à quatre, hein, Catel Berthelot, Yann Potin, Julien Loiseau et moi-même pour raconter une histoire un peu plus au long cours. Mais en fait, j'arrivais un peu au bout de ces ruses méthodologiques parce que il faut vraiment insister sur le fait que Jérusalem est quand même une ville bien particulière en termes de, justement, en termes d'archives. C'est une tour de Babel. C'est une ville où on écrit et où on parle toutes les langues de la terre, j'allais dire, depuis toujours. Et donc, où on archive toutes ces langues. Et donc, si on est un seul historien, même avec des grandes capacités linguistiques, un grand orientaliste, on va pouvoir accéder, aller à deux, trois parties de cette documentation. Et généralement, dans un parcours académique, on va se spécialiser dans un bassin documentaire parce qu'on veut être légitime. Et donc, on va finalement s'enfermer dans ce que j'appelle une alvéole documentaire qui va très vite devenir une niche historiographique, voire une cache d'archives, parce que les chercheurs sont comme ça, hein, ils transforment assez vite leur niche en cache. Et donc, ça, c'est vraiment l'inverse. C'est de dire, voilà, à Jérusalem, toutes les langues sont parlées, toutes les langues sont écrites, toutes les langues sont archivées depuis toujours. Donc, il faut se mettre à plusieurs et à beaucoup pour les approcher et pour les connecter surtout.
Avec une dimension transnationale, vous l'avez dit, presque mondiale, parce que vous allez donc traquer ces archives à l'autre bout du monde. Donnez-nous quelques exemples pour que les auditeurs comprennent bien ce qu'est ce projet pratiquement d'Open Jérusalem qui a débuté maintenant il y a 3 ans.
En 2014, oui, c'est ça, il y a 3 ans et demi et qui va durer encore 1 an et demi. C'est des projets de 5 ans, hein, donc on est un petit peu en train de fermer Open Jérusalem, là, ce qui n'est pas le moment le plus agréable. Mais oui, concrètement, c'est effectivement l'aspect peut-être un peu inattendu du projet, c'est qu'on s'est rendu compte que dans le terme même de Open Jérusalem, peut-être qu'inconsciemment, on avait dans l'idée qu'on allait faire aussi une histoire de Jérusalem extramuros, hein, dans tous les sens du terme. Et plus le projet s'est avancé dans le temps, plus on s'est éloigné en fait des murailles de la ville. D'abord, bon, parce que les institutions de conservation d'archives à Jérusalem ne sont pas forcément et spontanément ouvertes. Ça ne veut pas du tout dire qu'on les a contournées, hein. On a des très très bons résultats localement, et à Jérusalem Ouest et à Jérusalem Est. Les auditeurs pourront le constater s'ils vont sur le carnet hypothèse Open Jérusalem, où voilà, on raconte plein d'histoires, où on ouvre des archives dans Jérusalem. Mais c'est vrai qu'on s'est de plus en plus éloigné. Par exemple, les archives arméniennes du patriarcat arménien de Jérusalem ne sont pas faciles d'accès, mais en réfléchissant simplement à la circulation de la correspondance, généralement ce sont les destinataires qui conservent la correspondance. Et donc on a été à Yerevan, au Catholicos, et pas vraiment en fait au Catholicos, aux archives nationales, parce que la période soviétique a nationalisé les archives du Catholicos arménien, et donc là on a toute la correspondance produite par le patriarcat arménien et envoyée à son Catholicos. Hein. Et là beaucoup plus accessible, puisqu'on est dans des archives publiques, etc. Avec cette petite précision que ces archives ont été, donc ces archives écrites en arménien ont été décrites en russe à l'époque soviétique. Et donc,
on voit parler au moins 2 langues déjà.
Et ben voilà, on est déjà tout de suite dans le transnational. Il faut avoir quelqu'un qui maîtrise et l'arménien et le russe. Alors, typiquement, ce sont en fait des archivistes, on va dire, d'un certain âge arménien qui sont dans cette culture russe, dans cette culture soviétique, même, j'allais dire, de l'archive soviétique. Donc voilà un exemple. Un autre exemple pour rester un petit peu dans le monde, dans cette ancienne Europe de l'Est, Sofia, où on a été l'année dernière, parce qu'on avait appris qu'un train contenant des vieilles archives ottomanes s'était arrêté en gare de Sofia avec plusieurs wagons. On est dans la fin des années 1920, hein, donc fin de l'Empire ottoman, et en fait l'Empire ottoman ne sait pas quoi faire de ces archives, enfin l'Empire ottoman, pardon, la Nouvelle République turque au contraire, de Mustafa Kemal, et cherche à se débarrasser en fait et à valoriser une partie de ces archives ottomanes, justement écrites donc en turc ancien de caractère arabe. Et donc une partie de ces archives vont être vendues pour faire de la papeterie. Et
Oui.
Et des vieux Ottomans, ce qu'on appelle les vieux Ottomans, les vieux ottomanistes, s'en sont inquiétés, ont pétitionné, et donc finalement ont réussi à arrêter ce train en gare de Sofia. Il est resté un petit peu plusieurs mois sur les rails, et puis finalement la Bibliothèque nationale de Sofia a récupéré ses papiers et ils sont toujours là. Et donc on a trouvé, pour la petite histoire, très précisément 469 documents traitant très précisément de la fiscalité et de l'administration. C'était apparemment des documents qui venaient du ministère des Finances, traitant de Jérusalem. Et donc, on les a décrits sur place, hein, évidemment, on n'a pas pu les déplacer. Et donc, on a utilisé les compétences très fortes hein, d'orientalistes, d'archivistes de la Bibliothèque nationale de Sofia. Et donc, voilà, là, on a récupéré 469 documents, c'est pas grand-chose. Mais c'est pour vous dire que, voilà, partout, évidemment, à Addis Abeba en Éthiopie, évidemment en Jordanie, évidemment en Russie, évidemment aux États-Unis, évidemment, en fait, dans tous les pays d'Europe, en Grèce, à Istanbul, on y reviendra peut-être, on trouve des archives de Jérusalem.
Alors c'est ça le principe de base de votre projet européen donc que vous dirigez, Vincent Lemire, c'est donc de se dire qu'il y a certes des archives de Jérusalem à Jérusalem même, mais qu'il y a des archives de Jérusalem partout dans le monde parce que les communautés les ont emportées avec elles, parce que les tutelles, pourrait-on dire, qui étaient parfois des tutelles coloniales, ont pu avoir des archives dans leur propre fonds d'archives, et qu'au bout du compte, si on veut faire l'histoire de cette ville le plus complètement possible, eh bien, il faut aller décrire ces documents parce qu'il ne s'agit pas pour l'instant simplement de les numériser. Vous voulez décrire les documents le plus précisément possible pour que le travail continue après ce travail européen, ce projet européen que vous dirigez, Vincent Lemire.
Oui, ça c'est peut-être une des vraies originalités de ce projet, c'est qu'on ne se précipite pas sur la digitalisation. Et on a, on va dire, depuis une vingtaine d'années, on a beaucoup confondu dans ce qu'on a appelé les humanités numériques, quand elles s'intéressaient aux archives, humanité numérique, archives égale digitalisation. En fait, la digitalisation, ça prend beaucoup de temps, ça bloque souvent les institutions de conservation. C'est-à-dire que quand on démarre la conversation en disant on vient pour digitaliser, la digitalisation c'est une captation hein, finalement. Donc ça finalement ça ferme les archives. Et puis surtout, on va faire de la digitalisation au kilomètre, on va être très content, on va mettre en ligne des dizaines, des centaines de milliers d'images, mais qui d'abord ne sont toujours pas lisibles pour la plupart des gens parce qu'il y a un problème de langue et il y a un problème de paléographie, bon, ça admettons. Mais surtout, tant que ces archives ne sont pas décrites, ne sont pas inventoriées, on ne peut pas y accéder. Hein. C'est ce que tout archiviste sait. Une archive qui n'est pas décrite, c'est une archive perdue. De même qu'un livre mal rangé, c'est une archive morte. Donc d'abord, il faut décrire. Il faut décrire sur le plan matériel, il faut décrire sur le plan qualitatif, il faut décrire sur le plan thématique, sur le plan des contenus, de l'auctorialité, des dates, etc. C'est pas simple, hein, même les dates. Nos documents sont datés dans plein de systèmes de calendriers différents.
Bien sûr.
Il faut déjà tout ramener. C'est Jérusalem. Donc on a ne serait-ce que le calendrier éthiopien qui est décalé de 7 ans par rapport au grégorien, le calendrier hébraïque, le calendrier de l'Égypte, mais le calendrier ottoman qui est très légèrement décalé par rapport à l'Égypte. Déjà, rien que de ramener tous ces documents sur un système de datation commun, c'est un travail. Ensuite, quand on a des lieux qui sont décrits dans les documents, eh bien, les ramener, on va dire, à des toponymes commun, accessible pour les gens d'aujourd'hui. On est à Jérusalem, j'ai pas besoin de peut-être d'insister lourdement. Le Dôme du Rocher, le Mont du Temple et le Haram el-Sherif, ben c'est le même lieu, mais il n'est pas dit de la même façon dans les archives. Donc il y a tout un travail de description qui est en fait beaucoup plus lourd et beaucoup plus coûteux que la digitalisation. La digitalisation, on en fait pour des raisons pratiques, c'est-à-dire que moi j'étais à Washington, j'ai passé 3 jours et j'ai ramené 4000 pages des archives du consulat. Ça m'a pris, voilà, ça m'a coûté 3 nuits d'hôtel. La digitalisation, ça n'est pas coûteux. On a fait la même chose à Londres. Mais ce qui est coûteux et ce sur lequel on se mobilise vraiment scientifiquement, c'est la description et les critères de description. Et la deuxième originalité, c'est qu'on décrit ces archives, si possible, dans la langue native, hein, dans la langue du document. Et donc, on a une première couche de description qu'on conserve dans la base de données, qui permet d'accéder. Donc c'est la base Atom hein, qui est multi-alphabet. Donc ça veut dire qu'un chercheur, par exemple, arménien, va pouvoir interroger la base en arménien, avec un clavier arménien. D'accord ? Et puis on pose une deuxième couche de description qui est l'anglais. Voilà, bon, là c'est un projet européen, c'est un projet, on va dire,
ça va faire
mondial.
Beaucoup de gens qui nous écoutent.
Parce et oui, que, ouais. Mais en fait, il y a vraiment là, il y a une réflexion. L'enjeu est trop important. Hein. Jérusalem est une ville monde. On peut pas dire que Jérusalem est une ville monde. On l'a décrit dans la langue globale du moment de 2017, et c'est l'anglais.
Si ça avait été au XVIIIe siècle, ça serait en français que vous l'auriez écrit.
En français, bien évidemment, en lingua franca. Ouais.
Donc, en l'occurrence, vous avez ce travail en commun. Qu'est-ce que ce travail transnational vous apprend? Parce que il y a toujours une différence entre le moment où on dépose un dossier devant une instance européenne pour ces fameux projets européens de recherche, en l'occurrence Vincent Lemire, l'intention qu'on en a, et puis évidemment la pratique qui ressort du quotidien, pourrait-on dire, du travail en commun. Qu'est-ce que vous avez appris depuis maintenant 3 ans que vous travaillez sur cette question, puisque ces programmes durent 5 ans?
Alors, pour peut-être s'inscrire vraiment dans cette semaine de la fabrique sur les archives, on a réappris une évidence, hein, c'est que l'archive, c'est de la souveraineté. Et à Jérusalem, c'est plus vrai qu'ailleurs. C'est-à-dire, on le sait quand on va dans les archives notariées, on sait que les archives sont parfois des titres juridiques. Mais à Jérusalem, les archives sont presque toujours des titres juridiques ou des titres de propriété ou des titres de légitimité ou d'authenticité. Ou voilà, on le voit tous les jours rien qu'en écoutant les informations. Donc, les archives, c'est de la souveraineté, c'est de la politique, c'est du pouvoir. Et en fait, à Jérusalem, toutes les souverainetés sont emboîtées. On a évidemment des souverainetés impériales, donc en l'occurrence, nous, sur notre période, hein, on l'a peut-être pas dit, mais il faut le dire pour les auditeurs, pour l'instant, on travaille sur la période, on va dire, mi-19e, mi-20e, 1840, 1948. Peut-être que le projet Open Jérusalem sera appelé à s'ouvrir, hein, encore plus sur le plan chronologique. Mais donc, nous, on a la souveraineté ottomane, donc évidemment, un énorme investissement à Istanbul, dans les archives impériales, parce qu'il y a énormément de documentation qui est expédiée, produite à Jérusalem, expédiée à Istanbul, conservé à Istanbul. Et là, il faut dire que les archivistes turcs, aujourd'hui, font un énorme travail, hein, de description qui nous a beaucoup aidés. Ça va aussi un petit peu dans... C'est très intéressant, ça va aussi dans ce trend un petit peu de réottomanisation de la culture turque aujourd'hui et de la vie politique turque, y compris. Donc, on va aussi... Voilà, ça nous a appris aussi que les archives, comme l'histoire, hein, mais les archives sont soumises au temps présent.
Aux aléas, hein, du
on
temps.
Dit toujours que l'histoire est une science du présent, qui vient du présent, mais les archives aussi, en fait. Hein. On s'est mis à décrire merveilleusement les archives ottomanes à partir de la fin des années 1990, quand AKP a pris le pouvoir. Hein. Donc, il y a des logiques, et nous, ça nous a servi. Et puis, il y a les archives, évidemment, britanniques, hein, les archives du mandat anglais, bon, qui sont très, très compliquées à traiter, parce que, par définition, c'est des archives coloniales. Donc, c'est colossal. Hein. Là, on parle en centaines de mètres, en kilomètres linéaires. Donc, c'est extrêmement compliqué. On a des grilles de lecture aussi thématiques, hein, c'est-à-dire que on traite les archives de Jérusalem, mais dans le titre du projet lui-même, hein, on veut traiter la ville d'abord par son urbanité et sa citadinité, voilà, par ses aspects matériels, et puis par les effets de voisinage, hein, entre ses habitants, qu'ils soient harmonieux ou conflictuels. Et on s'intéresse aussi en particulier beaucoup aux correspondances entre les souverainetés, justement, entre les patriarcats et la mairie, par exemple, sur des questions de fiscalité, ou entre la mairie et son instance, sa souveraineté impériale du moment, ou entre les patriarcats entre eux. Donc, en fait, en faisant aussi de la typologie documentaire, très, très précisément, et là on revient à la question de la digitalisation, tout ça prend du temps, en fait. Comprendre comment un fonds d'archives est organisé, faire un véritable état descriptif des fonds, comme disent les archivistes, ça donne déjà une intelligence sur la documentation et sur ce que nous, on va pouvoir en faire.
Alors, il y a ce travail en commun. Est-ce que vous avez eu des discussions, et pas simplement des discussions préliminaires, entre tous les chercheurs qui participent à ce programme, qui sont nombreux, et vous êtes plusieurs dizaines de chercheurs dans le monde entier autour de ce programme Open Jérusalem, Vincent Lemire. Est-ce que vous avez vu naître peut-être des conflictualités au sein même d'un travail en commun, parce que sur une vision comme celle d'un sujet comme celui de Jérusalem, évidemment, il y a des possibilités de conflictualité.
Bien sûr. Peut-être notre seul atout, c'est qu'on avait anticipé cette question-là. Moi, je travaille sur Jérusalem et à Jérusalem depuis 20 ans. Donc, cette question-là, cette question politique au sens noble du terme, elle est totalement intégrée à ma pratique. Et le projet Open Jérusalem était pensé comme étant une plateforme de dialogue entre différents chercheurs. Les conflictualités n'ont pas toujours été là où on les attendait le plus. Par exemple, en ce moment, la situation politique en Turquie rend les choses plus compliquées du côté des archives ottomanes qu'elles ne l'étaient il y a 3 ans, même quand on a démarré le projet. Quand on travaille, par exemple, sur les Éthiopiens, eh bien, on arrive dans l'évêché éthiopien à Jérusalem, on demande la documentation. Il n'y a pas d'archives au sens strict, hein. Il n'y a pas de salle de lecture, il n'y a pas d'archives, il n'y a pas de cote, il n'y a rien. Mais il y a une pièce qui est fermée à clé et on nous dit non, vous ne pouvez pas rentrer. Par contre, peut-être qu'à Addis Abeba, vous aurez l'autorisation. Donc, il y a des moments où, en fait, on sent qu'il y a des jeux de pouvoir qui ne sont pas forcément ce qu'on attendait. La deuxième chose aussi, c'est qu'on a vraiment cherché à éviter de faire d'Open Jérusalem une espèce de j'allais dire, de projet de bons sentiments où on allait réunir autour d'une même table des chercheurs israéliens et palestiniens et arméniens et turcs et grecs. Enfin, vous voyez, il y a plein de conflictualités possibles, en fait. Hein. En fait, on demande aux gens qui collaborent à Open Jérusalem d'assumer leurs différences, de travailler sur les règles qu'on a définies, mais ils ne sont pas obligés pour ça de devenir amis. Et j'ai même envie de dire, ils peuvent rester ennemis, c'est leur droit. Je veux dire, il y a aujourd'hui des situations qui sont très difficiles à Jérusalem. Mais en plaçant les choses sur un plan scientifique et sur un plan de la collaboration scientifique, on a obtenu des résultats quand même, j'allais dire, oui, inespérés.
Alors, ces résultats, pour l'instant, sont communiqués sur le carnet. Il faut saluer l'initiative de ces carnets hypothèses. Donc, si vous allez sur le site internet, vous le trouverez d'ailleurs sur la page de la Fabrique de l'Histoire. Vous pourrez chercher ce carnet sur Open Jérusalem dans hypothèses. Donc, c'est un endroit qui rassemble sur le net les travaux des chercheurs en cours, pourrait-on dire. On peut donc voir les travaux en cours, mais j'imagine qu'il y aura un rendu public plus important. Il est destiné à être rendu quand cette publicité de vos travaux va être faite, à part à la Fabrique de l'Histoire, à quelle date en l'occurrence?
Alors voilà, le carnet hypothèse, c'est l'histoire du projet. Hein. C'est passionnant, mais ça donne des pistes, mais c'est l'histoire du projet. La base de données, elle est en construction. Ça va très vite. Elle se fait sur une plateforme qui s'appelle Atom, qui a été développée par le Conseil international des archives, la fameuse CIA. voilà, mais c'est au-delà de la blague, c'est important parce que c'est une plateforme open source, donc a priori pérenne. On a compris avec d'autres, hein, qu'il fallait le moins possible mettre d'argent dans le développement d'une base de données parce que c'est de l'argent perdu finalement parce
qu'il faut l'entretenir dans 5 ans
plus une plateforme est développée, moins elle est pérenne. Donc on utilise Atom, qui est une plateforme open source, qui est celle par exemple qui est utilisée par l'UNESCO aujourd'hui, hein, pour décrire à la fois toute sa documentation et tous les bâtiments dont il s'occupe. Ça, c'est Atom, c'est la base de données. Et puis évidemment, on construit un site internet avec une agence dont j'ai envie de faire la publicité ce matin, qui s'appelle Limonade Co. C'est une agence web qui a la spécificité d'avoir été fondée par deux archivistes. Et donc, c'est une agence web qui comprend les problématiques
De l'archive.
De l'archivistique, tout simplement. Et donc, c'est la première fois qu'on a réussi vraiment à parler la même langue. Donc, le site va être ouvert, pour répondre à votre question, à partir du mois d'avril, on va dire, pour les chercheurs, une centaine de chercheurs qui sont autour d'Open Jérusalem, qui vont avoir un accès privilégié pour pouvoir tester le site et évidemment nous renvoyer tous les bugs et nous dire comment ça ne fonctionne pas. Et puis l'ouverture au public, on va dire, ce sera à la rentrée prochaine, en septembre 2018. Le site, ce sera tout simplement www.openjerusalem.org. Et là, on va dire, on aura à peu près 40 000 documents décrits et accessibles, avec aussi des espaces de travail possibles, hein, des espaces d'annotation, des paniers personnels, des paniers partagés. En fait, on essaye à la fois de créer un entrepôt d'archives, mais aussi une salle de lecture. Et dans cette salle de lecture, on veut qu'il y ait
virtuelle.
Et on veut qu'il y ait des tables de travail individuelles où on puisse conserver par exemple ces cartons et y revenir de semaine en semaine.
Comme quand on va dans une salle d'archives.
Mais on veut aussi créer des tables de travail collectives. Hein, parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, il y a certains documents, il faut se mettre à 2, 3, 4, 5 pour ne serait-ce que les lire. Hein, parce que des fois, ils sont par exemple en arabe, mais en alphabet syriaque. Et donc, rien que là, déjà, il faut se mettre à 2.
Oui, et ça veut dire aussi que ce projet qui aura duré au bout du compte 5 ans, quand il se terminera en 2019, Vincent Lemire, ce projet a pour objectif, au bout du compte, que les chercheuses et chercheurs s'emparent des documents que vous avez décrits dans Open Jérusalem pour en faire un travail historique postérieur, c'est ça?
Oui, alors on a fait évidemment de la valorisation, hein. On a fait de l'édition de sources, on a fait des articles, on a fait des colloques, on a fait des livres, on a fait tout ça. Mais j'allais dire, c'est le
béaba
de notre métier. Il n'y a pas à s'en vanter. Mais ce qu'on veut éviter, c'est le destin, en fait, quand même, de beaucoup de bases de données historiques et archivistiques, c'est-à-dire qu'elles rouillent dans un coin et que personne ne s'en occupe. Alors, la chance qu'on a, c'est que c'est Jérusalem et que, on le sait, ça intéresse beaucoup de gens.
C'est toujours d'actualité.
C'est toujours d'actualité. Mais il faut créer les conditions d'une appropriation par les collègues, mais aussi par ceux qui travaillent, j'allais dire vraiment, enfin en tout cas intensément, les doctorants et même les masterants. Donc en fait, notre dernier colloque en octobre 2018, qui va se passer à Venise, à la Ca' Foscari, ne va pas être un colloque. C'est-à-dire, on va demander aux chercheurs impliqués dans le projet d'accéder à la base de données et de produire des sujets de recherche, c'est-à-dire avec ces fameux paniers, donc d'aller faire des carottages dans la base de données, en essayant de croiser si possible plein de documentation dans plein de langues, etc., pour produire des sujets de master, mais pourquoi pas des sujets de thèse. Et sur le site, il y aura une vitrine, j'allais dire, académique, dont pourront s'emparer tous les étudiants, tous les directeurs de thèse, pour finalement faire de la recherche avec cette base de données.
Merci beaucoup, Vincent Lemire, d'avoir saisi cette occasion d'actualité autour de Jérusalem pour venir nous parler, dans une semaine qui était consacrée dans la Fabrique de l'Histoire à la question des archives, de ce projet Open Jérusalem, donc consacré aux archives de cette ville. Merci beaucoup.
Merci à vous.
France Culture, la Fabrique de l'Histoire, Emmanuel Laurentin.
Actualité de la recherche, toujours dans cette émission du vendredi de la Fabrique de l'Histoire, avec vous, Ouda Benhamouna, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes enseignante à Stanford University Programme de Paris et vous êtes une des co-organisatrices des rencontres qui se tiennent aujourd'hui et demain à l'École des hautes études en sciences sociales, des sciences sociales en état d'urgence, islam et crise politique. La dernière fois, et la première fois d'ailleurs, où vous étiez venu à la Fabrique de l'Histoire, c'était un certain 13 novembre 2015. Nous étions à Marseille pour parler, donc, dans le cadre des rencontres d'Averroès, des relations entre l'Europe et le monde musulman et le monde arabe. Et bien, nous n'avons pas pu faire autre chose que de constater ce qui s'était passé à Paris ce jour-là, et les rencontres ont été annulées. Ça a quelque chose à voir, d'une certaine façon, avec ce programme que vous avez lancé avec d'autres et avec ces journées d'études, Ouda Benhamouna.
Oui, tout à fait. Juste après les attentats de novembre 2015, c'est vrai que beaucoup de chercheurs se sont mobilisés, ont eu une réflexion sur leur statut de chercheur et sur leur recherche sur le monde musulman et sur l'islam. Après la tribune, que Alain Fuchs avait écrit après les attentats de Charlie Hebdo, il y avait déjà eu au sein du CNRS et dans les universités une prise de conscience sur ce que les recherches en sciences sociales et en sciences humaines peuvent apporter
à la connaissance
de l'objet islam. Et en même temps, on avait constaté une mise en cause des chercheurs sur le monde musulman qui s'était exprimé dans divers contextes civiques et politiques. Soit on leur reprochait de ne pas avoir su prévoir le terrorisme islamique, soit on les accusait d'empathie coupable à l'égard de leur objet. Et donc, je ne sais pas si vous vous souvenez, on avait dit que la sociologie était caractérisée comme la science de l'excuse. On s'est dit qu'il était temps aussi donc de retravailler sur notre statut de chercheur, sur notre méthodologie, de croiser nos expériences, de valoriser ce que les jeunes chercheurs faisaient.
Et en particulier de comprendre pourquoi cette riche expérience de la recherche sur les mondes musulmans, sur l'islam, était d'une certaine façon inaudible ou ne passait pas dans la société. Il y a cette dimension-là, c'est-à-dire voilà. Comment des travaux, qui sont des travaux universitaires, des travaux de recherche, sont-ils cantonnés d'une certaine façon dans leur milieu. Et j'imagine qu'il faut questionner la société, mais qu'il faut aussi questionner le monde de la recherche, Ouda Benhamouna.
Voilà, alors ces journées s'inscrivent dans le cadre de ce qu'on appelle le RTP, qui est un réseau de thématiques pluridisciplinaires qui a été créé en janvier 2017 et qui veut en même temps mettre en place l'interdisciplinarité, mais l'interface avec l'espace public, essayer de faire ce qui nous est difficile en fin de compte, le transfert et de travailler en collaboration.
Le transfert entre le milieu de la recherche
et
le grand public, enfin
le grand public. Voilà. Et donc on inscrit, c'est notre premier gros événement, ces journées, dans cette idée-là, dans l'interface avec l'espace public. On a essayé de faire un lieu d'échange de nos expériences entre chercheurs dans diverses disciplines, mais également avec d'autres acteurs qu'on n'a pas l'habitude d'inviter, comme des écrivains, comme des artistes, des journalistes. On a essayé de solliciter des élus qui aujourd'hui ne pouvaient pas venir, mais il y aura d'autres occasions. Le monde de la justice, les magistrats, les juristes également, pour travailler aussi sur, que ce soit dans le monde pénitentiaire, mais également aussi sur nous en tant que chercheurs, sur... par exemple, quand on travaille sur le salafisme, quelles sont nos protections et en même temps nos devoirs face aux institutions policières ou judiciaires. On veut en fin de compte une circulation entre ce réseau de chercheurs, mais également entre les acteurs de la société civile, de l'espace public différent.
Pourquoi rétablir une discussion qui a du mal à s'établir au bout du compte entre tous ces acteurs justement, et pour aussi se dire que, eh bien, à un moment ou un autre, si des gens travaillent, sont payés par le CNRS, sont payés par les universités pour pouvoir faire des recherches, en l'occurrence, eh bien, il faut que ces recherches arrivent jusqu'à des destinataires qui soient plus larges que simplement les séminaires qu'ils fréquentent, c'est ça,
oui. Ben Aboudin ? Je pense que la demande sociale pour comprendre le moment présent se fait plus forte que jamais aujourd'hui, hein, et qu'il y a besoin de sortir, tout en ayant besoin de cette émulation entre nous et de cette réflexion sur notre objet de recherche, de sortir ce qui est produit dans la recherche sur cet objet qu'est l'islam ou le monde musulman actuellement, mais sur d'autres objets également, vers d'autres espaces que le milieu de la recherche. Il faut qu'on y arrive, que ce soit par le biais des médias, que ce soit par le biais de partenariats avec soit des élus, les mairies, par l'éducation nationale, dans l'enseignement secondaire, ou auprès des magistrats, par exemple, également.
Alors, donnez-nous quelques aspects de ce programme, donc de deux jours, aujourd'hui et demain, qui se tiennent à l'École des hautes études en sciences sociales.
Alors, c'est un programme très riche où on a voulu montrer la divergence des approches et de terrain. Au-delà des polémiques, hein. Et on va, par exemple, sur la première journée, avoir plusieurs tables rondes qui vont aborder, par exemple, la place et le sens du religieux dans les sociétés occidentales, pour essayer d'avoir une réflexion sur le sécularisme.
Avec Wassila Saïdia, ou encore Jean-Marie Donegani et Philippe Budgen.
Voilà, c'est bien ça. Ou par exemple aussi, également, une table que vous allez justement discuter dans l'après-midi, qui est sur les intellectuels face au djihadisme.
Avec Fethi Ben Slama, Jean Birnbaum et Richard Reichmann.
Voilà.
Et donc, toute cette journée, il y a des réflexions sur le corps et la sexualité en islam, la crise et la fabrique des médias. Et demain, quelque chose d'un peu particulier. Oui. Parce que quel est le thème de cette journée où il n'y a pas que des universitaires, en l'occurrence. Aujourd'hui, c'est plutôt une journée consacrée à des recherches et à des universitaires. Et demain, à un dialogue ou à une discussion entre universitaires et d'autres acteurs.
Oui, avec des écrivains, des scénaristes qui vont justement essayer de... On avait déjà amené quelques ateliers avec certains de ces écrivains qui vont essayer de réfléchir à cette écriture du dedans et du dehors, à savoir comment se positionner en tant qu'écrivain. Parce que pourquoi on a voulu... faire par exemple particulièrement cette table, et on a constaté que juste après les attentats, les écrivains avaient été
sollicités,
beaucoup plus sollicités que les chercheurs dans les médias, et que de fait ils pour le public, peut-être qu'ils apportaient une part de la vérité, alors quelle vérité, mais que de fait il fallait peut-être aussi s'associer à une réflexion avec les écrivains à ce qu'ils ressentent, réfléchissent sur les situations en contexte dans le monde musulman. Ou
en contexte de crise en général.
Voilà, en contexte de crise, voilà.
C'est-à-dire comment la parole d'un écrivain ou d'une écrivaine pouvait compléter, amender, discuter les positions
de chercheurs. Voilà. Et donc on s'est dit, il faudrait donc essayer de travailler sur une table ronde avec ces différents acteurs pour essayer de comprendre, en fin de compte, comment essayer de croiser nos diverses expériences et nous écouter et dialoguer ensemble.
Et donc, il y a des écrivains, mais il y a aussi, demain, dans cette journée de demain, il y aura aussi la place à des chercheurs et des chercheuses en sciences du langage ou encore en sociologie. Vous dites des sciences sociales en état d'urgence, il y a un petit peu d'histoire, vous êtes historienne vous-même, il y a Jocelyne Daclia qui est une historienne aussi, qui fait partie des organisatrices, et il y a d'autres historiens, mais il y a beaucoup de sociologie en l'occurrence. On sent que la sociologie et la science politique sont présentes dans ces journées, Oudah Ben Aboudin.
Alors oui, alors peut-être que parce que l'attaque a été beaucoup plus forte pour la sociologie. Alors il y a eu une mobilisation.
Vous voulez dire que l'idée même que la sociologie ait pu être un enjeu politique dans les débats d'après les attentats a fait que les sociologues ont envie d'une certaine façon de reprendre la parole et de dire ce qu'ils faisaient, c'est cela ou...
Je pense que ça peut être. C'est vrai que de fait, les sociologues et les politiques sont beaucoup plus présents dans le cadre de ce colloque, mais il y a de fait, on a travaillé ensemble en collaboration pour trouver ce qui était le plus pertinent. Certains de nos invités n'ont pas pu venir, on était indisponibles, voilà. Ouais. Donc il peut sembler que la majorité soit. Mais je pense que c'est aussi lié aussi à l'actualité qui a été que les sociologues ont été beaucoup plus attaqués que les historiens, par exemple.
Oui, alors il y a des psychanalystes aussi, comme Fethi Ben Slama, ou des anthropologues comme Richard Rechman, qui interviendront dans ces journées. Mais ces journées, dont aujourd'hui et demain à l'École des hautes études en sciences sociales, Ouda Ben Hamouda, vous le voulez comme une sorte de début, c'est-à-dire qu'un démarrage d'une pratique que vous voudriez mettre en œuvre sur plusieurs années, justement de dialogue entre la recherche et ce que vous disiez tout à l'heure, la société civile, pourrait-on dire.
Oui, c'est notre premier gros événement et on espère trouver le moyen de mettre en place des partenariats avec différentes institutions ou des associations de la société civile pour essayer d'élaborer une collaboration, un transfert des savoirs avec, par exemple, des mairies, faire des conférences ou des cours.
De la formation permanente.
De la formation permanente. Ça pourrait être ce que Alain Fuchs disait dans sa tribune ou également aussi être plus en collaboration avec le rectorat, l'éducation nationale.
Merci beaucoup, Ben Hamouda, d'être venu parler de ce journal, ces journées d'études, colloque des sciences sociales en état d'urgence, islam et crise politique qui se déroule aujourd'hui et demain à l'École des hautes études en sciences sociales à Paris. Merci.
Merci beaucoup aussi.
Il est 9h52 sur France Culture. Il est donc l'heure de retrouver la dernière séquence de ce vendredi. Comme tous les vendredis, vous le savez, il y a la séquence C'était à la une avec le site Retro News de la Bibliothèque nationale de France qui collecte et qui met à disposition les grands articles de presse de ces deux derniers siècles. Aujourd'hui, un article d'Albert Londres, Voguant vers la Guyane, lu par Laurent Lederer.
J'accuse les bureaux de la guerre d'avoir mené dans la presse une campagne abominable.
Le 26 avril prochain,
en portant ces accusations, je n'ignore pas que je me mets sous le coup des articles 30 et 31 de la loi sur la presse du 29 juillet 1881. Et c'est volontairement que je m'expose.
C'était à la une.
Le Petit Parisien, 8 août 1923. Quand ce matin le Biskra, qui naguère transportait des moutons d'Alger à Marseille, et maintenant promu au rang de paquebot annexe dans la mer des Antilles, eut jeté son ancre devant Port d'Espagne, les passagers de tous crins et de toutes couleurs, chinois, créoles, blancs, indiens, entendirent, ou auraient pu entendre, le commandant Maguero crier de sa passerelle « Non, non, je n'ai ni barre, ni menottes, ni armes, je n'en veux pas !» En bas, sur la mer, 11 hommes blancs et 2 policiers noirs attendaient dans une barque. C'étaient 11 Français, 11 forçats évadés, repris, et qu'on voulait rembarquer pour la Guyane. Les autorités anglaises de Trinidad, insistant pour se débarrasser de cette cargaison, on vit arriver peu à peu un canot qui portait le consul de France. « La prison de Port d'Espagne n'en veut plus, et moi je ne puis pourtant pas les adopter. Gardez-les, commandant !» fit le consul. Alors le commandant cria aux 2 policiers noirs « Faites monter !» Les 11 bagnards ramassèrent de misérables besaces et un par un, jambes grêles, gravirent la coupée. 4 étaient sans savates. Chic et araignées de mer avaient abîmé leurs pieds. Les surveillants reconnaissaient les hommes. « Tiens, dit l'un d'eux, te voilà. Tu te rappelles, c'est moi qui ai tiré 2 coups de revolver sur toi il y a 3 ans quand tu t'évadas du camp Charvin. » « Oui, répondit l'homme. Je me rappelle, chef. Allons, venez, dit le gardien de première classe au ventre convexe. Les hommes suivirent. Par une échelle, ils descendirent au 3e, et on les mena tout au bout du bateau, au-dessus de l'hélice. À la fin de l'après-midi, comme il était 6 heures et que nous longions les côtes de Trinidad, quittant le pont supérieur, je descendis par l'échelle des 3e, et à travers la pouillerie ambulante des fonds de paquebot, je gagnai le bout du Biskra. Les 11 forçats étaient là, durement secouée par ce mélange de roulis et de tangage, baptisé casserole. « Eh bien, leur dis-je, pas de veine, on recommencera. » Sur les 11, 2 seulement présentaient des signes extérieurs d'intelligence. Les autres, quoique maigres, semblaient de lourds abrutis. 3 d'entre eux, ayant découvert un morceau de graisse de bœuf, s'en frottaient leurs pieds affreux, en répétant « Ah, ces vaches d'araignée-crabe !» Mais tous réveillaient en vous le sentiment de la pitié. On aurait voulu qu'ils eussent réussi. « D'où venez-vous ? De Cayenne ? Mais non, de Marienbourg, en Guyane hollandaise. On s'était évadé du bagne depuis 18 mois. On travaillait chez les Hollandais, on gagnait bien sa vie. Alors pourquoi avez-vous pris la mer ? Parce que le travail allait cesser et que les Hollandais nous auraient renvoyés à Saint-Laurent. Tant que les Hollandais ont besoin de nous, tout va bien, ils nous gardent. Ils viennent même nous débaucher du bagne quand ils créent de nouvelles usines, nous envoyant des canots pour traverser le Maroni, nous donnant des florins d'avance. C'est qu'ils trouvent chez nous des ouvriers spécialistes et que ce n'est pas les nègres qui peuvent faire marcher leurs machines. Mais depuis quelques années, ils sont sans cœur. Dès qu'un homme est inutile, ils le livrent. C'est la faute de quelques-uns d'entre nous qui ont assassiné chez eux, à Paramaribo. Les bons payent pour les mauvais. Et alors ? Alors pour gagner la liberté, nous nous sommes cotisés, les 11. Nous avons acheté une barque et fabriqué les voiles avec de la toile de sac. C'est au Venezuela que nous voulions aller. Au Venezuela, on est sauvés, on nous garde. On peut se refaire une vie par la bonne conduite. Il nous fallut 9 heures pour sortir de la rivière. 2 jours après, nous devions voir la terre, le Venezuela. On ne vit rien. Le lendemain, on ne vit rien non plus. Mais le soir, nous avons eu juste le temps de ramasser les voiles. C'était la tempête. Sans être chrétiens, nous avons tous fait plusieurs fois le signe de croix. Au matin, on vit la terre, on se jeta dessus. Des Noirs étaient tout près. « Venezuela ou Trinidad » crions-nous. « Trinidad !» C'était raté. Nous voulûmes repousser le canot, mais sur ces côtes, les rouleaux sont terribles. Après 8 jours de lutte, nous n'en avons pas eu la force. Le reste n'a pas duré 5 minutes. Des policemen fondirent sur nous. Dans Trinidad, il n'y a que policiers et voleurs. Un grand Noir frappa sur l'épaule du rouquin et dit « Au nom du roi, je vous arrête !» Il n'avait même pas le bâton du roi, ce macaque-là, mais un morceau de canne à sucre à la main. Ces Noirs touchent 3 dollars par forçat qu'ils ramènent. Vendre la liberté de 11 hommes pour 33 dollars, on ne peut voir cela que dans le pays des pouilleux. Alors j'entendis une voix qui montait du 2e forçat et qui disait « Moi, j'ai tué pour moins ». La nuit tropicale tombait tout d'un coup comme une pierre. Les 11 forçats qu'on n'avait pas menottés s'arrangèrent un coin pour le sommeil. Des premières, arrivait un vieux chant fêlé de piano annexe. C'était un air de France vieilli aux Antilles. On entendait aussi les coups de piston de la machinerie. À 11 nœuds 5, et à des titres différents, le Biskra nous emmenait au bagne. Albert Londres.
Un article donc tiré du site Retro News de la Bibliothèque nationale de France que vous pouvez consulter donc pour pouvoir entendre l'intégralité ou plutôt lire l'intégralité de cet article d'Albert Londres sur sa voyage au bagne de Guyane. La semaine prochaine, nous parlerons et en particulier lundi de la question des migrations dans le cadre d'une journée spéciale de France Culture sur ce thème. Nous évoquerons la question des routes de l'esclavage des périodes anciennes jusqu'à aujourd'hui en Afrique. Et puis il faut dire aussi que le reste de la semaine sera consacrée à partir de mardi à la question de l'histoire de l'Europe centrale et orientale. Cette émission, comme toutes les autres, a été préparée par Francesca Fossati et Aurélie Marcet. Clément Daté nous a accompagnés à la technique aujourd'hui et Séverine Cassard à la réalisation.